Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu 2 heures de médias et de culture au sens large, au sens très large, Cyril de la carrière. Tous les médias et toutes les formes de culture. Oui, Internet est un média avec le journal des médias, le journal de la culture, un choix de sortie cinéma pour demain. Demain, ce sera mercredi. Et le retour d'Alan Stivell, évidemment, le portrait inattendu d'Hélène Manarino, ce sera vers 10h15. Notre info média, un document passionnant, car il va contre le pessimisme ambiant au bonheur d'être prof. C'est le titre, c'est dans la case Le Monde en face sur France 5 et les profs pourront nous écouter en replay. Peut-on en finir avec l'antisémitisme, beaucoup moins joyeux? C'est la bonne et lancinante question que pose France 2 ce soir, 75 ans après la libération du camp d'Auschwitz. Soirée spéciale présentée par Julien Bugier qui sera notre invité avec le témoignage du sociologue Michel Wieborka, peut-être le meilleur connaisseur français des ressorts de la haine. Enfin, l'incomparable Danny Boone pour Le Lion, film complètement fou dans lequel il interprète un agent secret mythomane enfermé dans un hôpital psychiatrique. Question, et si c'était vrai? Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, ça c'est vrai. Bonjour Justine.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est le journal des médias avec vous. Qu'est-ce qu'il y a au programme dans votre journal des médias?
Castaner s'en prend à BFM TV, le CSA fait le bilan des mauvais élèves, François Fillon en solo sur France 2, les cérémonies qui n'attirent plus grand monde et RMC Sport qui veut garder sa Ligue des Champions.
Mais Cyril, on commence évidemment par les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision?
Ils ont regardé France 2 et sa série Les Rivières Pourpres. Plus de 3 800 000 téléspectateurs étaient devant la 2, qui devance d'un chouïa TF1 et son autre série, Sam. 3 700 000 Français étaient devant la 1. En troisième position, CM6. 2 500 000 personnes devant le divertissement marié au premier regard. Et quelques autres chiffres à vous souligner ce matin. Un excellent score encore pour France 3 avec un nouveau numéro de l'émission Secret d'Histoire consacré à Agrippine, la jeune impératrice romaine. L'émission a été suivie par 2 100 000 téléspectateurs. C'est encore mieux que la semaine dernière où il y avait 1 800 000 téléspectateurs. Oui, ça progresse encore. Un excellent score. Et deux autres programmes étaient au-dessus du million hier soir. Il y avait d'abord Arte avec le film Cours sans te retourner. 1 140 000 Français ont regardé le film. Et un autre film, c'est cette fois-ci un blockbuster sur C8, Independence Day avec Will Smith, suivi par 1 000 000 de Français.
Et voici pour les audiences. Le journal des médias, règlement de compte hier soir dans les salons d'un hôtel parisien.
C'était soir de vœux hier à Bercy. Le syndicat de police Synergie Officier recevait pour l'occasion le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui, comme le veut la tradition, a prononcé un petit discours. Et c'est à la fin de cette allocution que se porte notre intérêt ce matin. Le ministre revient alors sur la mort du capitaine Franck Labois. Franck Labois, c'est ce policier volontairement fauché par un fourgon de malfaiteurs en fuite dans la nuit du 10 au 11 janvier et qui succombera à ses blessures 2 jours plus tard.
C'était dans la banlieue de Lyon.
Problème, BFM TV a annoncé durant plusieurs heures que l'agent était décédé alors qu'il était encore plongé dans le coma à ce moment-là. Une erreur que la chaîne avait reconnue en publiant un correctif. Et c'est donc à ce raté qu'a fait référence hier soir Christophe Castaner. Notre journaliste Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1 était dans la salle.
Un policier est mort dans des conditions d'intervention exceptionnelles. On en a très peu parlé. On l'a même un peu tué. J'en ai fait le reproche à beaucoup de journalistes, encore aujourd'hui à l'équipe de BFM, qui non seulement, dans la précipitation de l'événement, avait annoncé Franck Labois décédé le samedi matin alors qu'il était sur la table d'opération, alors qu'à midi nous avions des nouvelles plutôt rassurantes sur son état de santé et qu'il m'a fallu intervenir personnellement auprès de BFM pour leur dire « mais vous êtes dingue ». Et qui derrière, au moment du rassemblement, au moment de son décès, au moment où la nation devait se mobiliser derrière ce moment d'accompagnement de Franck Labois, a préféré d'autres polémiques. Cela provoque chez moi une colère profonde et un engagement, celui de toujours défendre avec exigence votre engagement.
La critique par un ministre en exercice d'un média qu'il nomme, c'est plutôt une chose rare et pas sûr à la fin que tout le monde en sorte gagnant.
Le CSA dresse un petit bilan de 2019.
Une année chargée pour le régulateur de l'audiovisuel. Il a reçu l'année dernière 70 000 plaintes et saisines. C'est 2 fois plus qu'en 2018. La faute à qui? La faute à Éric Zemmour. Nos confrères de Télérama révèlent que l'essayiste figure 2 fois dans le classement du CSA. Une fois pour des propos tenus dans son émission sur CNews et une autre fois lors de de son discours à la Convention des droites, diffusée sur LCI. À lui seul, Éric Zemmour totalise plus de 8000 plaintes. Mais ce n'est pas lui qui détient le record, un triste record, de l'année sur une seule et même intervention. La palme revient à Christine Angot. L'écrivain avait fait un parallèle entre la Shoah et l'esclavage lorsqu'elle était encore chroniqueuse sur France 2 dans l'émission On n'est pas couché.
Et pas de nouvelles de Cyril Hanouna au CSA.
Et oui, en effet, c'est souvent lui qui a monopolisé les meilleures places des plaintes au CSA. Et bien cette année, pouf, c'est la chute. L'animateur de C8 ne figure qu'en 6e place. Et encore, même pas pour une blague perso, mais pour la sortie très douteuse de Jean-Marie Bigard sur le viol. Bingo, 2400 saisines contre l'humoriste. Alors, Cyril Hanouna serait-il assagi? On l'attend dans ce studio pour parler zen, yoga et méthodes de relaxation.
Avec grand plaisir, l'invitation est lancée, Cyril. Jeudi soir sur France 2, ce sera du François Fillon only.
L'ancien Premier ministre sera jeudi l'invité de Vous avez la parole sur France 2. Un invité exceptionnel, puisque l'ancien Premier ministre s'est fait rare dans les médias depuis sa défaite à la présidentielle de 2017. Et donc, un invité exceptionnel, dispositif exceptionnel. Contrairement à l'habitude, l'invité politique n'aura pas de contradicteur. La rédactrice en chef de l'émission, Alix Bouillaguet, explique cette décision par la volonté de l'équipe d'avoir un entretien épuré. L'émission de jeudi soir sera donc centrée sur François Fillon et seulement François Fillon pour un long entretien prévu pour durer 1h15.
Et puis Cyril, les grandes cérémonies de remise de prix ont de plus en plus de mal à attirer les téléspectateurs.
En effet Philippe, si hier matin Hélène Manarino vous parlait de la razzia de Billie Eilish aux Grammy Awards, eh bien on ne peut pas dire que ça ait vraiment passionné les Américains. La cérémonie des Grammys a établi un triste record dimanche soir. Jamais il n'avait été aussi peu regardé depuis 12 ans. Il y avait en effet un peu plus de 18 millions de personnes devant CBS, la chaîne, en recul de 5% par rapport à l'année dernière. Et c'est un phénomène qu'on retrouve régulièrement maintenant. En septembre dernier, une autre cérémonie, celle des Emmy Awards, avait connu une chute spectaculaire là, du nombre de téléspectateurs, 32% de moins par rapport à l'année précédente. Et en France, même chose. Les Victoires de la musique ont perdu 800 000 téléspectateurs entre 2018 et 2019. Quant au César, c'est pareil. La dernière édition, présentée par Cadmerade, avait été regardée par 1 600 000 personnes, soit 500 000 de moins qu'un an auparavant. Et il fallait remonter à 2010 pour trouver un si petit score. Alors, il va falloir tout le talent de Florence Foresti, qui reprend son costume de maîtresse de cérémonie cette année pour relancer la machine.
Sport, la Ligue des Champions restera bien sur RMC Sport.
C'est en tout cas ce que Alain Veil, le grand patron du groupe, a dit hier soir à ses équipes. Une réunion prévue suite au départ de Laurent Échinger, le patron de RMC Sport, et dont je vous parlais ici même hier matin. Alain Veil a voulu rassurer ses équipes. Si la chaîne a perdu les droits de la Ligue des Champions à compter de la saison 2021, pas question de renoncer aux derniers 18 mois de la prestigieuse compétition européenne que possède RMC Sport. Une mise au point qui vient après une série de rumeurs imaginant une revente ou même un rapprochement avec l'espagnol Mediapro. D'ailleurs, le patron de ce groupe, Rome Jurez, disait il y a quelques semaines qu'il voulait discuter avec RMC Sport et espérait un accord raisonnable.
Et puis Cyril, toujours concernant RMC Sport, voulait faire un petit correctif.
Et je dois battre ma coulpe. Hier, j'ai dit que François Pélissier avait quitté Next Radio TV. Lourde erreur de ma part. François Pélissier est le patron de la régie et des sports de TF1 et pour lui, tout va bien. Non, c'est François Pesanti qui avait quitté le groupe Next Radio TV. Merci aux auditeurs qui m'ont signalé cette petite bourde.
Et on salue les deux François qui nous écoutent. Merci Cyril. On se retrouve ici même demain matin pour un nouveau journal des médias.
Ce soir à 20h50 sur France 5 sera diffusé le documentaire Au bonheur d'être prof. La réalisatrice Marina Julienne sera votre invitée. Dans un instant, Philippe, pour l'infomédia du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'infomédia du jour.
Ils sont déconsidérés, mal payés, souvent débordés. Pourtant, ils font le plus beau métier du monde, celui d'enseigner. Mais ce ne sont pas des profs au bord de la crise de nerfs que vous verrez ce soir sur France 5, non. Vous découvrirez 4 profs de primaire, collège et lycée, de générations différentes, dévoués à leurs élèves et qui sont heureux d'être professeurs, tout simplement. Au bonheur d'être prof, c'est le nom de ce documentaire diffusé ce soir à 20h50 sur France 5. Bonjour Marina Julienne.
Bonjour.
Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire. Première question basique, pourquoi avoir choisi de parler du positif? Je veux dire, le sens de ma question, on sait qu'il est beaucoup plus facile de dire ce qui va mal que ce qui va bien. Donc comme on dit, bad news is good news. Pourquoi avoir choisi cet angle positif?
En fait, j'ai fait plusieurs documentaires sur le domaine de l'éducation nationale, dont Collège public sauf qui peut, qui dit bien ce que ça veut dire, sur l'évitement scolaire. Ensuite, un deuxième film qui s'appelait L'école à bout de souffle, sur un système scolaire assez sclérosée, voilà, sur le primaire.
Ça, c'était il y a 7 ans,
oui,
l'école à bout de souffle.
Oui, c'était il y a 7 ans. Et à chaque fois, en réalisant ces films, j'ai rencontré des enseignants qui, malgré tout, étaient vraiment dévoués pour leurs élèves, se bagarraient au sein d'un système pour essayer de faire classe autrement, de persévérer. Et donc, je trouvais que c'était important de montrer aussi le côté engagé de beaucoup de professeurs.
Vous trouviez, mais vous n'êtes pas toute seule, quand on fait un documentaire, il faut la chaîne. Est-ce que la chaîne vous a suivi facilement? Ou est-ce qu'au contraire, c'était dur à convaincre de leur dire, on va montrer des choses positives?
Honnêtement, je crois que la chaîne m'a suivi parce que l'année d'avant, ils avaient fait un documentaire où ils donnaient la parole à des professeurs qui craquaient dans le système de l'éducation nationale.
Donc pour contrebalancer.
Voilà.
Vous avez donc suivi 4 profs. Qui sont-ils? Vous voulez les détailler? Il y a Nolwenn, Jean-Pierre, Jérémy et Gérard.
Oui, alors Nolwenn, elle est directrice d'une toute petite école en Bretagne, un village très bédant.
Mmh. Jean-Pierre.
Jean-Pierre, il est professeur d'histoire géo en lycée à Saint-Denis, donc en banlieue.
Ouais. Il avait quitté un poste du ministère de la Défense.
Oui.
C'est quand même assez rare pour être signalé pour être prof en banlieue, alors qu'on dit que c'est le job dont personne ne veut, et surtout pas les jeunes qui démarrent.
Oui, alors que lui, c'était vraiment son engagement de départ. Il s'est dit que c'était là qu'il pouvait être utile à quelque chose.
Ouais.
Voilà, c'est pour ça qu'il a choisi d'enseigner en banlieue. Jérémy, c'est un jeune enseignant qui, quand je l'ai rencontré, était à moitié dans le public et venait d'entrer aussi à l'école privée alternative de Arles.
Ouais. Et puis Gérard,
c'est un enseignant, lui, qui a une carrière professionnelle avant d'être enseignant et qui est maintenant professeur en CAP, en génie civil.
À Briançon. Comment les avez-vous choisis? Vous les connaissiez? Comment c'est passé?
Non, par exemple, les profs de Briançon, l'enseignant de Briançon, je l'ai rencontré par une journée sur l'innovation pédagogique qui était organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a aussi une association, le Café Pédagogique, qui organise des rencontres sur l'innovation. Et puis Ashoka, qui est une association qui repère des acteurs du changement dans le domaine de l'éducation, et là qui m'a orienté sur Nolwenn à Trébédan.
On dit Nolwenn?
Oui,
je pensais que moi j'aurais dit Nolwenn. Alors, ça veut dire que leurs initiatives ne sont pas assez mises en valeur, pas assez médiatisées, c'est pour ça que vous les avez suivies?
Exactement, c'est-à-dire qu'ils sont tous finalement dans des écoles lambda, dans des lycées lambda, et pourtant ils ont des projets extraordinaires, mais ils ne sont jamais mis en avant, ils sont généralement peu soutenus par leur hiérarchie et peu soutenus par leur père.
Combien de temps vous les avez suivis?
Une année scolaire.
Gérard qu'enseigne le génie civil en CAP résume très bien le métier de prof. Il y a la théorie et il y a la pratique. Extrait.
C'est sûr que c'est stressant et sur un plan technique et de connaissances, on est à l'aise. Par contre, l'appréhension au début, c'est plus le relationnel avec les élèves. Comment ça va se passer d'avoir un groupe de 15 élèves devant soi? Parce qu'il y a toujours des petites problématiques. Hein. Il n'y a pas un cours qui se ressemble. Un cours qui peut très bien débuter, tout se passe bien, pour X raisons, le petit stylo qui tombe au moment, et ça part en live. C'est de l'adaptation et de la psychologie en permanence.
Mais vous avez quand même assisté à des scènes plus tendues que d'autres. Je dis ça parce que Gérard dit le stylo qui tombe, ça dérape, ça part en live. Vous ne montrez pas le partage en live, si j'ose dire. C'est un choix, vous ne l'avez pas eu à l'image ou vous l'avez eu à l'image et vous avez choisi de ne pas le garder au montage.
Si, on le montre un petit peu justement à l'image. Il y a une toute petite séquence dans la classe et on sent bien que ça dérape.
Mais ce n'est pas ce qu'on appelle partir en live.
Oui, mais l'idée, ce n'était pas d'insister là-dessus, c'était juste de comprendre qu'effectivement, ce n'est pas simple d'enseigner avec ses publics-là, dans ces classes-là, mais c'était de montrer que ce qu'ils font, c'est-à-dire en l'occurrence un chantier école pendant 3 semaines où ils travaillent sur la restauration de la collégiale de Briançon, c'est quand même 10 fois plus intéressant que de construire en classe un circuit électrique qu'on démolit, qu'on casse le lendemain, ou de monter, une salle de bain, en l'occurrence pour ses élèves de CAP. Même chose qu'on casse à la fin de la semaine parce que c'est la fin du travaux pratiques. Alors que là, ils sont engagés sur des projets qui vont rester. Et en plus, grâce à eux, il y a des visites qui sont organisées de la collégiale. Donc, il y a des touristes qui viennent voir ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est très valorisant. Et du coup, ça se passe super bien, en l'occurrence, quand ils sont justement en chantier école. Et c'est ça qu'on a suivi.
Il n'y a pas que les projets qui vont rester. Il y a vous aussi, vous restez avec nous, Marina Julienne.
L'infomédia du jour continue dans quelques minutes avec Marina Julienne, la réalisatrice du documentaire Au bonheur d'être prof, diffusé ce soir sur France 5 à 20h50. Alors à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Comment réinventer l'école? C'est la question qui sera traitée ce soir sur France 5 dans le documentaire Au bonheur d'être prof. La réalisatrice Marina Julienne et votre invité Philippe Bondel.
On parlait de Jean-Pierre. Lui, son truc, c'est d'emmener ses élèves en voyage dans des pays lointains pour les confronter à une autre culture. Et cette année-là, pendant que vous le filmez, il a décidé de bousculer ses élèves de Seine-Saint-Denis en les emmenant au Japon. Extrait.
Ces élèves-là, souvent, le problème qu'ils ont, c'est qu'eux se sentent français complètement. Dans le regard des autres, souvent, ce n'est pas le cas. Et alors, j'avais l'idée de me dire que quand on part à l'étranger, en fait, les étrangers qui vont nous recevoir voient des Français. Et je m'aperçois que cette fierté d'être français, ils la retrouvent et ensuite, ils la gardent. Voilà. Et là, ça leur fait un bien fou, ça. Et le voyage, rien que pour ça, si au moins ils ont pu gagner ça, leur estime de soi, bon, je trouve que c'est quand même pas mal, quoi.
Très beau témoignage. Les élèves, ils en pensent quoi ?
Mais les élèves, effectivement, au Japon, justement, Jean-Pierre, il rencontre un de ses anciens élèves avec qui il a fait un premier voyage, un des premiers voyages il y a une dizaine d'années. Cet élève est devenu maintenant, enfin, il travaille à Tokyo et donc il se rencontre. Et il raconte ça, c'est-à-dire que lui, le premier voyage qu'il a fait, c'est ça qui lui a permis de se sentir français parce que lui-même était algérien, arrivé en France assez tard. Et en travaillant là au Japon, bah, il se rend compte que bah, finalement, il a envie de sa baguette de pain le matin, qui râle comme tous les Français. Et donc, oui, effectivement, ça fonctionne. Hein,
Alors, je précise que les élèves, il n'y a pas seulement des ados à problème, il y a aussi des tout-petits. Et les élèves que vous filmez, ils ont vraiment de la chance, parce qu'ils partent en voyage, on leur demande leur avis. Ils ont même le droit de choisir comment organiser la cour de récréation entre ceux qui veulent discuter, ceux qui veulent courir, ceux qui veulent jouer au ballon, et même sur le choix des sports. Extrait.
Chaque groupe va présenter la proposition qu'il a pour aménager la cour. Et il faut qu'à la fin de ce moment-là, on ait décidé ensemble de ce qu'on retient comme proposition.
Bah, en fait, là, un problème, parce qu'en fait, là, on ne sait pas si c'est foot ou basket. Parce que si c'est foot, en même temps c'est basket, ça dérange les autres qui font du foot.
Pourquoi on a fait un terrain pour courir et un terrain pour jouer au ballon ?
Parce que moi, j'avais décidé ça.
Ah oui, tout seul. Oh non, on a discuté, non, pour décider.
Oui.
J'adore. C'est vrai que si c'est foot et en même temps c'est basket, on ne comprend plus rien. C'est juste pas possible. C'est quoi le point commun entre les quatre profs que vous avez suivis après coup ? C'est la pédagogie qui met l'enfant au centre. Qu'est-ce que vous avez découvert en tournant ce documentaire ?
C'est effectivement la pédagogie qui met l'enfant au centre, qui est la bienveillance vis-à-vis des enfants et surtout le fait qu'ils croient vraiment dans le rôle de leur de l'éducation, quoi. Ils croient dans leur métier, ils pensent vraiment et avec raison que la façon d'enseigner et la façon de se comporter avec les enfants peut vraiment avoir une influence sur leur avenir.
Je vous interromps sur cette réponse. Tous les profs ne sont pas bienveillants, tous les profs ne pensent pas que l'éducation est au centre.
je pense que...
Pensais que c'était la base, moi, benoîtement. Mes parents étant profs, je me souviens de ça.
Ceux-là sont particulièrement, investis d'une mission.
Ouais.
Et ils ne se contentent pas juste d'appliquer peut-être des programmes.
Et les directives.
Voilà.
Autre point commun, justement, pour parler des programmes, les quatre profs, on les sent bien seuls. Ils n'ont pas tellement le soutien ni de leur hiérarchie, ni de leur père. Pourquoi se sentent-ils si seuls, selon vous ?
Bah parce que les projets dans lesquels ils sont engagés, c'est vrai que ça demande plus de travail, plus d'investissement. Il faut remplir des dossiers, faire des demandes de subventions. Ça prend du temps. Il faut un travail d'équipe aussi pour monter ce type de projet. Du coup, je pense qu'ils dérangent un peu. Alors,
ouais. Bon,
on les laisse faire. En gros, c'est un peu ce que dit Nolwenn, c'est-à-dire que voilà, personne ne m'a empêché de rien. Et en même temps, le soutien, ils ne l'ont pas. Et ou alors ils l'ont vraiment au bout de 14-15 ans d'investissement où la hiérarchie constate que vraiment l'école est transformée. Là, ils commencent à avoir une reconnaissance.
Ça fait penser à certaines personnes qui travaillent comme huissiers de justice, je pense à ça parce que j'ai vu un reportage, qui achètent eux-mêmes la peinture et qui peignent eux-mêmes leur bureau. Parfois, ils sont quasiment obligés d'investir sur leur temps, sur leur argent, d'aller démarcher pour construire leur projet.
Oui, c'est sûr qu'ils s'investissent personnellement au-delà des heures de cours, mais aussi parce que c'est aussi une façon pour eux d'abord de ne pas s'ennuyer en classe. Enfin, il faut quand même dire qu'ils en retirent aussi un bénéfice personnel de cet investissement. C'est ouais. Donc leurs élèves ne s'ennuient pas avec eux et eux ne s'ennuient jamais dans leur métier. Donc, et c'est ce qu'ils disent, au bout de 20 ans, on est toujours heureux de venir faire classe parce qu'on a, plein de projets. Et voilà, donc,
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, l'argent privé qui compense le manque d'argent public?
Disons qu'il faut pas que ça s'institutionnalise, évidemment, mais après, moi, je ne suis pas choquée par le fait que pour certains projets, ils aient recours au privé. Pourquoi pas ? Je veux dire, il faut quand même faire des passerelles entre l'école et entre les lycées et les entreprises. C'est des gamins, après, qui vont aller travailler à Saint-Denis, notamment. Il y a beaucoup, ensuite, qui vont faire des BTS en alternance avec les boîtes du bâtiment. Donc, je trouve pas ça du tout absurde de coopérer avec eux, tant mieux.
Mais c'est presque un formidable documentaire. Non, c'est pas presque, c'est un formidable documentaire à montrer à tous les profs, à tous ceux qui souhaitent le faire. Vous avez été contacté par le ministère de l'Éducation, par Jean-Michel Blanquer?
Non, pas pour l'instant.
Pour diffuser votre documentaire en terminale dans les facs, en disant voilà, regardez ce qu'on peut faire quand on est prof, c'est formidable.
Oui, je pense que ce serait bien pour donner le goût d'enseigner aussi.
Vous travaillez sur quoi en ce moment? C'est quoi votre prochain projet?
Là, pour l'instant, je travaille sur l'émission C'est toujours pas sorcier. Donc voilà, l'émission C'est toujours pas sorcier.
D'accord, vous faites quoi comme documentaire dessus?
Alors, je fais des documentaires sur les araignées, les sous-marins. Enfin, c'est très, très éclectique.
Votre prochain tournage, c'est sur les araignées, les sous-marins ou...
Les sous-marins, voilà.
D'accord. Vous allez passer combien de temps dans un sous-marin?
Non, je ne vais pas y rester longtemps. Cela dit, les femmes sont maintenant admises à bord des sous-marins, ce qui est très récent.
Ouais. Et vous savez quoi, ce qui est formidable dans les sous-marins, ben c'est qu'il n'y a pas d'araignée. Merci beaucoup Marina Julienne. Au bonheur d'être prof, c'est le titre de votre documentaire diffusé ce soir à 20h50 et sur France 5. Ça se passe dans le cadre de l'émission Le Monde en Face, présentée par Marina Carrère-Dancos. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Merci.
Restez avec nous, Culture Média continue avec de nouveaux invités. Philippe, ce soir, France 2 propose une soirée inédite sur l'antisémitisme, présentée par Julien Bugier et avec le témoignage du sociologue Michel Viviorca. Ils seront avec nous dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et on accueille tout de suite Philippe, le journaliste Julien Bugier et le sociologue Michel Viviorca.
Bonjour Julien Bugier.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en plateau, présenté ce soir une émission spéciale dans le cadre de la soirée continue. Peut-on en finir avec l'antisémitisme avec deux documentaires, chacun portant leur titre? Votre soirée était programmée depuis longtemps, il faut le dire. Les chiffres, malheureusement, vous donnent raison. Le ministère de l'Intérieur vient de publier une étude qui montre une augmentation de 27% de faits à caractère antisémique en 2019. La seule bonne nouvelle, si je puis dire, les faits les plus graves, les atteintes aux personnes sont en net recul de 44%. Mais d'abord, la soirée, comment l'avez-vous articulée?
Il y a d'abord un documentaire qui est réalisé par un Israélien, donc c'est intéressant parce que c'est un regard aussi différent sur l'antisémitisme et la construction de l'antisémitisme à travers les âges. C'est un documentaire qui est très éclairant parce qu'il raconte avec force de pédagogie et force d'histoire 2000 ans de construction de l'antisémitisme. Ça remonte à l'histoire des religions avec l'antijudaïsme porté par les chrétiens. Pourquoi ? Parce que le peuple juif est le peuple qui, dans l'imaginaire collectif, est le peuple qui a tué le Christ, qui l'a crucifié. Et donc l'antisémitisme se construit à partir de ce péché originel et il évolue au fur et à mesure des âges. Au Moyen-Âge, il prend une nouvelle tournure, le juif est mis au banc de la société, puis c'est là qu'arrivent les premières caricatures du juif diabolique, avec le nez crochu, avec ce caractère un peu mystérieux, un peu diabolique, oui. Et puis il continue jusqu'au XXe siècle et il rebondit avec des théoriciens antisémitistes que sont Drummond, que sont Livman en Allemagne, avec l'horreur qu'on sait en 40 avec la Shoah. Donc premier documentaire autour de cette histoire-là, voilà, mais qui est une histoire importante, ouais, complète et complexe, j'allais dire. Le débat derrière avec les invités, où on parlera plutôt de l'antisémitisme contemporain, quelles en sont les genèses, quels en sont les piliers, les nouveaux relais, parce que l'antisémitisme est aujourd'hui multiple, c'est pour ça que le documentaire est aussi au pluriel et non pas au singulier. Et puis derrière, un documentaire assez formidable qui est un très bon prolongement, qui sera diffusé à 23h25 et qui est un antisémitisme raconté de façon plus contemporaine à travers le prisme de la ville de Toulouse. Vous savez qu'il...
Là où il y avait la tuerie de Mohamed Merah.
Voilà, après la tuerie de Mohamed Merah qui avait donné lieu à la mort de 3 jeunes enfants et d'un professeur. Donc le documentaire s'arrête sur cet écosystème-là, cet environnement-là, cette ville-là, et il nous raconte l'antisémitisme à travers le prisme de Toulouse.
Vous animez donc un débat, ce sera ce soir après le premier documentaire. Qui seront vos invités ?
Alors, il y en a beaucoup. On a d'abord souhaité donner la parole aussi à des témoins, c'est-à-dire des victimes de cet antisémitisme du quotidien, donc des anonymes, voilà, c'est sous forme de magnéto. Mm-hmm. Face caméra, ce sont des témoignages bruts, sans commentaires, et qui sont très forts parce qu'ils nous racontent ce que c'est d'être juif aujourd'hui en France. Donc, c'est des cas différents et des histoires différentes, mais ça nous permet aussi de comprendre ce qu'est être juif aujourd'hui en France et comment on vit cet antisémitisme dans sa chair. Et puis après, en plateau, il y aura Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, parce que l'antisémitisme aujourd'hui s'invite massivement à l'école. C'est ce qui sort aussi des chiffres que vous évoquiez tout à l'heure. C'est un phénomène assez nouveau. Voilà. Donc, comment combattre cet antisémitisme-là? On lui posera la question. Fatia Boudjala, qui est une prof d'histoire géo qui justement enseigne dans un quartier difficile de Toulouse et qui a parfois eu des propos assez vifs sur la laïcité et sur l'antisémitisme issu d'un islam radical. Donc on parlera de ça avec elle. Il y a Annette Vivorka, qui est une historienne, grande spécialiste de la Shoah. Il y aura aussi le grand rabbin de France, Raïm Corsia, voilà, plein d'autres invités qui seront sur le plateau. Michel Jonas.
Pour quelle raison Michel Jonas?
Michel Jonas, parce que on connaît tous évidemment le compositeur, l'auteur, le chanteur.
Bien sûr, la boîte de jazz.
Ce soir, ce qu'il vient nous raconter, c'est une autre histoire, l'histoire de sa famille. Vous savez qu'il a une partie de sa famille qui a été déportée à Auschwitz, qui n'en est évidemment jamais revenu. Il a lui-même, hasard des choses et hasard de la vie, grandi à Drancy, donc il a une histoire particulière. Et cette prise de conscience, il l'a eu un peu sur le tard et il s'est exprimé là-dessus assez récemment, en poussant un cri du cœur, un cri d'alarme aussi face à la résurgence de l'antisémitisme. Et donc, il tenait à être présent sur notre plateau et vous verrez, parce que je lui ai parlé, il a un discours assez fort.
Avant cela, le premier documentaire dont vous parliez est signé Ilan Ziv, c'est lui qui est israélien. Il part d'un constat, il dit la recrudescence de l'antisémitisme dans la plupart des pays occidentaux, les attaques djihadistes contre les croisés et les juifs remontent à très longtemps. Et dans ce documentaire, on entend les analyses de Michel Vivorka, sociologue spécialiste de ces questions de haine, de violence, d'antisémitisme. Bonjour Michel Vivorka.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes également président de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. On croyait l'antisémitisme mort et enterré dans les ruines de Berlin et du nazisme en 45, mais pas du tout. Comment l'expliquez-vous?
L'histoire tourne et les vieilles haines ne s'éteignent pas d'un seul coup ni entièrement, même si on découvre qu'elles conduisent au pire. Alors, il faut bien voir que ce qui allait dans le bon sens, si vous voulez, c'est pas seulement la compréhension de ce qu'avait été la destruction des Juifs d'Europe, mmh. C'est également les transformations du christianisme, à commencer par le catholicisme et le Concile Vatican II, qui, au début des années 60, met fin à l'idée que les Juifs, comme ça vient d'être appelé, auraient tué Jésus.
C'était en 62.
Voilà, 62. Donc, si vous voulez, c'est un événement qui allait dans le bon sens. La création de l'État d'Israël, au début, a été perçu de façon assez générale comme quelque chose de positif. C'était, après tout, les habitants d'Israël allaient faire pousser toutes sortes de choses dans le désert. C'était Rick Azaray, si vous voulez, la joie de vivre. C'était le kibboutz. Enfin, c'était des choses qui plaisaient beaucoup à l'opinion. La guerre des six jours, c'est David qui bat Goliath. Donc, il y avait un climat plutôt favorable à la disparition, en tout cas au déclin presque complet de l'antisémitisme. Et puis arrive la fin des années 70, et là tout change. On voit réapparaître, parce que l'idée n'était pas neuve, l'idée que les chambres à gaz n'avaient jamais existé. On voit apparaître Forisson, le négationniste. Et puis on voit aussi monter un front national dont le leader, Jean-Marie Le Pen, ne cachera pas un certain antisémitisme. Donc si vous voulez, voilà, tout change. L'image d'Israël se détériore, surtout après son opération militaire au Liban de 82.
Sabra et Shatila.
Exactement, parce que c'est pas l'armée israélienne qui assassine des centaines et peut-être des milliers de Palestiniens dans les camps de Sabra et Shatila, mais c'est sous ses yeux pratiquement que cela se fait, et elle est en situation d'occupante en quelque sorte, c'est des milices chrétiennes. Donc l'image d'Israël se retourne. Il y aura ensuite l'intifada, c'est-à-dire que David, c'est le jeune Palestinien et non plus Israël. Israël devient Goliath. Enfin, l'image d'Israël se transforme. Et en France, les transformations de l'immigration font que, au sein de populations issues de l'immigration venue d'Afrique du Nord, on remarque, on constate la montée d'un certain antisémitisme.
Alors, juste, Je vous interromps, Michel Viorca, parce qu'on va marquer une pause juste pour dire que ce qui est absolument passionnant dans ce que vous racontez, c'est la manière dont le conflit du Moyen-Orient s'invite dans le débat en France et génère cet antisémitisme qu'on croyait disparu. Vous restez avec nous, on en parle juste après avec vous et Julien Bugier.
Oui, Julien Bugier et Michel Viorca sont vos invités ce matin. Philippe, le premier présente la soirée inédite de France 2 ce soir avec deux documentaires sur l'antisémitisme et le deuxième témoigne dans ses reportages en tant que sociologue. On continue à en parler avec eux dans quelques minutes sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Les actes antisémites sont toujours d'actualité en France et ils sont même en augmentation, malheureusement. France 2 vous propose donc une soirée dédiée à ce sujet dès 21h05 ce soir. Pour en parler, vous recevez ce mardi Philippe Julien Bugier, qui sera à la présentation, et Michel Viorca, dont on pourra entendre le témoignage.
Nous sommes en train, Michel Viorca, de parler de l'antisémitisme en France. En mai 67, la propagande arabe appelait à la destruction d'Israël. En juin, il y a la guerre des 6 jours dont vous venez de parler. Et surtout, vous mettez dans ce documentaire en exergue l'immigration pour trouver la main-d'œuvre ouvrière dans les années 60. Immigration souhaitée par l'exécutif français. Ils viennent du Maghreb, ils sont utilisés pour les métiers les moins cotés et ils sont victimes de discrimination. Et vous dites qu'à bas bruit, naît dans ces populations un antisémitisme larvé, comme s'ils avaient exporté en France le conflit israélo-palestinien.
Alors il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a d'une part l'identification à la cause palestinienne chez certains, sous des formes qui peuvent devenir radicales, pas nécessairement d'ailleurs. Il y a deuxièmement, beaucoup plus tardivement, l'identification à l'islam radical. Là aussi, c'est quelques-uns seulement, c'est évidemment pas tous. Mais on voit comme ça se conjuguer une haine des Juifs qui mêle le thème palestinien et le thème islam, et qui va d'ailleurs rencontrer ici et là des connivences avec quelques milieux d'extrême gauche. Et donc, c'est un aspect. Mais ce que montre ce film, qui est très important, c'est que ce n'est pas le seul aspect. Il y a, le film d'ailleurs commence avec des militants plutôt d'extrême droite.
Oui, oui.
Et donc, si vous voulez, la haine des Juifs, elle est dans différents milieux. Il faut absolument éviter de dire c'est tel milieu et exclusivement ou principalement tel milieu. C'est pas vrai. On voit de la haine des Juifs dans différents milieux et dans des régions différentes de France. D'ailleurs, avec des sources un peu variées.
Et différentes époques, on voit l'un des premiers films antisémites en 1934, on voit quelques extraits, c'était La Maison des Rothschild, avec des caricatures absolument atroces de gens cupides intéressés seulement par l'argent. Et c'est l'un des reproches larvés qu'on a entendu parfois sur les ronds-points des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, le président des riches, on citait ancien banquier chez Rothschild. Est-ce que là, il n'y a pas de l'antisémitisme larvé dans cette accusation ?
Alors, je suis d'accord avec vous sur la nature de cette accusation qui consiste à accuser le président Macron d'être un instrument des Juifs, en quelque sorte, ce qui est absolument inacceptable. Là où je résiste un peu à votre propos, c'est en disant que c'est sur les ronds-points. Parce que le mouvement des Gilets jaunes, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que c'était
un mouvement. Vous avez raison, c'était pour faire court. J'aurais mieux fait dire ici et là. Mais en tout cas, cet antisémitisme larvé, on l'entend un petit peu partout. Et un mot d'actualité, Julien Bugier.
Non, je voulais dire, M. Viorca, il y a quand même aussi la prise à partie de Finkielkraut dans une manifestation de Gilets jaunes. Ça se passe à Paris, où il est copieusement insulté de sale juif et de sale sioniste. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que dans les classes populaires, il y a aussi une résurgence de l'antisémitisme qui est captée par l'extrême droite et l'extrême gauche.
Michel Viorca, je vous fais réagir, pardonnez-moi. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la récente déclaration du président Macron, on est en plein cœur de l'actualité, qui a déclaré il y a quelques jours en Israël que l'antisionisme était pour lui une forme d'antisémitisme.
Je pense qu'il faut être prudent et qu'il faut maintenir l'idée d'une certaine distinction entre les deux registres. Même si souvent ils se chevauchent, vous pouvez très bien être l'un et pas l'autre. Je vous en donne un exemple, un seul. Aux États-Unis, vous avez des milieux évangéliques pour lesquels les Juifs sont détestables, et donc des propos antisémites, et les mêmes milieux évangéliques sont les soutiens les plus ardents de l'État d'Israël et je dirais même de la politique de Netanyahou.
Julien Bugier, pardonnez-moi.
Oui, simplement, je pense qu'il y a une méconnaissance aussi dans le débat public de ce que veut dire antisionisme. Il ne s'agit pas de ne pas critiquer la politique israélienne. On a le droit tout à fait de critiquer la politique israélienne. Je pense que dans la bouche du président de la République, antisioniste, c'est ne pas nier l'existence de l'État d'Israël. Ça, c'est être antisémite.
Ou alors, ce que dit Macron, bon, je fais son exégèse, c'est le fauner pour ne pas oser se déclarer antisémite et se dire antisioniste.
Alors, je crois, si vous voulez, qu'on peut circuler assez facilement d'une catégorie à une autre. Ce que j'ai voulu dire, simplement, c'est qu'il ne faut pas les ramener entièrement l'une à l'autre. Voilà, c'est ça la chose importante. Il faut donner aux mots des sens précis. Être antisémite, c'est développer la haine des Juifs. Être antisioniste, c'est considérer que l'État d'Israël ne doit pas exister. Les deux peuvent marcher ensemble, évidemment, mais pas nécessairement et pas toujours. Vous savez, vous avez eu beaucoup d'antisémitisme dans l'histoire qui disait que ce serait très bien si les Juifs allaient vivre en Israël. Donc c'est, voilà, vous pouvez avoir des registres qui ne se chevauchent pas complètement.
Nous ferons suivre au président Macron. Merci beaucoup Michel Viborca, sociologue, président de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Merci beaucoup Julien Bugier d'avoir été avec nous en studio. Je rappelle, soirée continue, peut-on finir avec l'antisémitisme ? Un débat mené par vous et deux documentaires. Débat avec notamment le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ce sera ce soir sur France 2 à partir de 21h. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Philippe Vendel.
Dans un instant, on poursuit avec notre heure culture, Philippe. Mais juste avant, c'est l'Air à d'auteur avec le duo Stéphane de Grotte et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston-Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup,
rien. Nous sommes mardi, Gilles.
En effet.
Mardi gras, ou c'est quoi?
Un mardi fit.
Un mardi fit. Comme vous, hein, d'ailleurs.
Vous vous entretenez ou pas?
Bien sûr. Vous faites quoi?
Toutes sortes de mouvements. J'ai l'impression que vous vous moquiez de moi.
Non. Vous vouliez nous parler de quoi, ce mardi?
Du lendemain, du lundi, donc de la suite de.
Vous vous rendez bien compte qu'on est mal barre, là. Hein. On n'aura rien, hein, sur ce mardi-là. Quel est le bouquin que vous avez lu, là, ce matin? Vous avez lu quoi, par exemple?
Eh bien.
Ou hier soir? Ou demain?
J'ai lu Pérec. Vous connaissez Pérec?
Oui, enfin bon. Tout le monde connaît Pérec.
Bon, bah alors on n'en parle plus alors.
Mais si, allez-y, je me souviens.
J'ai lu le journal.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans le journal? L'Iran?
Ça veut dire que c'est la guerre.
Peut-être qu'au moment où ceci va passer, ça sera la paix. Hein.
Non.
Ou peut-être qu'on ne sera plus là.
Mais au moins, ce sera dans la boîte.
Vous avez peur en général des guerres?
Oui, tout à fait, j'ai peur pour moi.
Ah, vous parlez d'abord de vous, vous avez peur pour vous.
Je parle du temps présent, puis je descends dans l'avenir.
Est-ce que le futur ne serait pas derrière nous et que le passé est à venir?
Oui.
Vous prenez une antiquité,
oui.
Un meuble en antiquité.
Oui.
Ça, c'était le passé.
Oui.
On devient des antiquités, nous,
oui.
Au fil du temps. C'est le futur.
Oui.
Mais voilà, la démonstration est faite.
Oui.
Pourquoi est-ce que l'antiquité, ce que nous allons devenir, et dans le passé, alors que nous allons vers l'Antiquité.
L'Antiquité est toujours par rapport à quelque chose.
C'est ce que je dis. Nous allons vieillir, nous allons devenir des Antiquités. Donc ça, c'est le futur. Le passé est dans le futur.
Absolument pas, vous vous trompez.
Si vous réfléchissez deux secondes à ce que je viens de dire.
Pas besoin de réfléchir, c'est évident.
Mais pensez alors.
Non, bah non.
Est-ce que vous considérez que le présent existe?
Oui, forcément.
À quel moment il a existé le présent? Il est plus là?
Au moment où on parle.
Mais non, parce que déjà il est parti.
Eh ben oui, mais avant il existait.
Mais donc ça n'existe pas.
Il existe à l'instant T.
Ce que vous n'arrivez pas à maîtriser, ça n'existe pas. L'amour, est-ce que ça existe l'amour? C'est une illusion, c'est un sentiment. Ça passe entre les doigts, c'est comme un sable mouvant. Vous pouvez pas prendre un kilo d'amour dans votre sac et partir chez vous en vacances en Normandie?
Si.
Comment vous faites-vous?
Dans son cœur.
Un sac de cœur. Un sac de nœuds.
Un sac de cœur qui peut être un sac de nœuds, mais qui peut être un sac de cœur qui devient un sac de nœuds.
C'est joli ce que vous dites. Vous lisez un peu des philosophes?
Des philosophes?
Je viens de le dire. Est-ce que vous lisez des philosophes? Je peux pas te dire ça autrement.
Est-ce que vous avez un livre de chevet?
Non, mais en revanche, j'ai une table.
Et sur cette table, vous mettez quoi?
Mes pensées.
C'est joli.
Je pense qu'on peut terminer là-dessus.
J'ai pas hâte d'être un mercredi.
Vous n'avez pas hâte?
Non.
Pourquoi?
Parce qu'on va se projeter tout à coup vers l'avenir et l'avenir est incertain.
Non, puisque je vous dis que c'était le passé. Hier alors?
Hein?
Hier.
Hier? Quoi?
À demain.
C'est quel patois que vous parlez maintenant?
Comment?
Vous parlez un patois, madame?
Je parle pas vous. À demain, Gilles.
À demain, Stéphane.
C'était les rats d'auteur avec Stéphane de Grotte et Gilles Gaston-Dreyfus. Feuilleton quotidien à retrouver dès demain à 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Danny Boone. Il est à l'affiche du film Le Lion qui sort demain. Il y incarne un patient d'hôpital psychiatrique qui prétend être un agent secret. Et si c'était vrai? Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Ça, c'est vrai aussi dans quelques instants. Et puis dans les indispensables, le meilleur des films à voir cette semaine, en plus du Lion, avec Mathieu Charrier. Et puis de la musique avec une rencontre. Angèle Châtelier s'est rendue en terre bretonne pour retrouver le maître de la musique celtique, Alan Stivell. Il revient.